Vous écoutez France Culture.
Bonjour Marie, Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes bien le lundi 16 mai 2011, les matins de France Culture jusqu'à 9h et tout de suite les enjeux internationaux avec Thierry Garcin. Aujourd'hui, la Palestine et l'avenir du rapprochement entre le Fatah et le Hamas. Bonjour Thierry.
Et bonjour Marc Vouinchet et bonjour à notre invité qui est en direct. Merci d'être avec nous, Jean-François Legrain. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS Grémaud, maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon. On l'a vu hier dimanche, flambée de violence aux frontières d'Israël, dans le Golan syrien, au Liban et en Cisjordanie. On va parler rapidement du rapprochement entre le Fatah et le Hamas, qui est une conséquence induite des soulèvements dans une grande partie du monde arabe depuis décembre. D'autre part, il faut rappeler deux dates, la victoire électorale du Hamas donc en janvier 2006 et puis la guerre civile de juin 2007 qui a abouti à une diarchie de fait entre l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à Gaza. Et puis on parle d'un gouvernement de consensus et de législatives d'ici un an. On va parler de l'actualité juste quand même en ce qui concerne ce rapprochement. Est-ce que le terme de réconciliation paraît abusif ou largement prématuré, Jean-François Legrain?
Il apparaît prématuré. En tout cas, son annonce a créé la surprise générale tant chez les observateurs que chez la majorité des acteurs. La satisfaction a été générale chez les Palestiniens, mais très mesurée, tant le doute est profond sur la capacité des deux parties à mettre en œuvre cette réconciliation. En effet, on s'aperçoit que cette réconciliation est faite en des termes très vagues et qu'elle a été dépourvue de programme politique. C'est une simple déclaration de bonnes intentions. Mais aujourd'hui, on se rend compte que 3 semaines quasiment après l'annonce de cette réconciliation, aucun signe positif n'a encore été relevé. Des arrestations ont été signalées de militants de Hamas en Cisjordanie. Le Premier ministre n'a toujours pas été nommé et bien évidemment le Mahmoud Abbas n'a pas fait la visite de Gaza.
Donc oui, effectivement. Alors l'actualité aussi, c'est intéressant dans la mesure où il y a eu hier, sauf erreur, la Nakba. Voilà, c'est ça. Et d'une part, qui veut dire quoi d'ailleurs en...
La Nakba, c'est la catastrophe.
La catastrophe,
ça renvoie donc à la création d'État d'Israël et à l'éviction de la majorité du peuple palestinien de sa terre traditionnelle.
Voilà. Et puis, alors, il y a eu aussi un bouclage de Cisjordanie, ce qui fait que chaque fois, d'ailleurs, que les territoires palestiniens sont bouclés, en l'occurrence donc la Cisjordanie, Israël revient paradoxalement à la frontière qu'il dénonce de 1967.
Oui, alors...
Comment interpréter alors ces événements violents ?
Ces événements ont plusieurs significations. La première, c'est au niveau donc de la Syrie, puisque pour la première fois depuis 1973, il y a eu des heurts armés qui ont fait des morts sur le Golan syrien occupé depuis 1967. Et c'est là, je crois, un message envoyé par le régime de Bachar el-Assad pour rappeler tant à Israël qu'à la communauté internationale que lui avait été capable de garder sa frontière et de préserver Israël depuis donc 40 ans, et que la remise en cause de son régime ouvrirait une période d'incertitude. Oui. Les heurts qui ont eu lieu sur Gaza montrent que pour Hamas, le signal, c'est de dire qu'en dépit de la réconciliation et des évolutions actuelles, Hamas n'abandonne pas ses revendications et en tout cas sa défense du droit des réfugiés et des Palestiniens à leur terre.
Alors on rappelle évidemment que la bande de Gaza a été évacuée et décolonisée, entre guillemets, donc en 2005.
Tout à fait.
Alors, et pour le reste, c'est-à-dire le Liban ?
Alors, le Liban, la signification renvoie à la fois à la situation libanaise où l'armée libanaise reste quand même une force relativement faible. La grande signification, je crois, elle est commune à l'ensemble des communautés palestiniennes, tant des zones autonomes que de la diaspora, puisque c'est la première initiative pan-palestinienne, je dirais, qui concerne donc l'ensemble du peuple palestinien depuis bien longtemps, où l'ensemble du peuple palestinien a pris une initiative commune, s'est mobilisé sur cette date et est allé sur le terrain pour défendre ses droits. C'est là une rupture avec ce qui s'est passé depuis Oslo, puisque avec Oslo, l'autorité d'autonomie s'était de facto substituée à l'OLP, en ce sens que les territoires autonomes avaient pris toute l'attention des responsables palestiniens, Et donc, de fait, la diaspora s'était trouvée quasi abandonnée. Donc, pour la première fois, cette diaspora, qui n'avait de facto plus de représentants, ou quasiment, eh bien, a repris une initiative pour montrer son unité.
Alors, il faut rappeler aussi, d'ailleurs, que c'est un des clivages, évidemment, pierre d'achoppement entre Israël et les Palestiniens. C'est le droit au retour des réfugiés, avec bien d'autres pierres d'achoppement, mais c'est une qui est essentielle.
C'est essentiel puisque c'est un droit qui à la fois relève des résolutions des Nations Unies, dont celle de 1948, mais également du droit personnel de chaque individu consigné dans les diverses conventions internationales.
Il y a, Jean-François Legrain, à propos de l'Égypte, une question qu'on se pose. Pendant des années, l'Égypte avait développé d'une certaine façon une diplomatie molle à l'égard du conflit israélo-palestinien. C'était un peu l'acteur absent de la région. Le régime Moubarak a tombé. Est-ce que l'Égypte peut avoir un rôle, quel qu'il soit, plus important aujourd'hui et dans l'avenir ?
L'Égypte s'y prépare, en tout cas, et la réconciliation palestinienne a dépendu en grande part du rôle de cette nouvelle diplomatie, d'un État qui tente de se reconstruire, de se redonner en tout cas une nouvelle identité, une quête d'autonomie à la fois par rapport donc aux parrains américains et une volonté de reconquête, de reconstruction d'une politique arabe, de reprendre donc une initiative au niveau arabe. Et l'un des signaux très forts, me semble-t-il, c'est justement la désignation hier par les États de la Ligue arabe de celui qui actuellement occupe le poste de ministre des Affaires étrangères en Égypte, M. Nabil El Arabi, qui vient d'être nommé nouveau secrétaire général de la Ligue arabe.
Donc ça vous paraît quelque chose d'important, un retour en force de la diplomatie, enfin une possibilité de retour en force de la diplomatie égyptienne?
C'est le signal, en tout cas, qui est envoyé tant par l'Égypte, qui signifie à la Ligue arabe que la Ligue arabe compte toujours pour elle. Il faut se souvenir aussi que cette Ligue a son siège au Caire. Et c'est également un signe de la Ligue arabe qui montre que l'Égypte demeure pour le monde arabe un pôle de décision politique.
Il faudrait parler aussi, évidemment, sur le plan diplomatique, du rôle, en grande partie absent d'ailleurs en ce moment, du quatuor, c'est-à-dire les Nations Unies, les États-Unis, la Russie et l'Union européenne, qui avaient mis un certain nombre de conditions pour que on entérine un certain nombre un processus entre l'OLP ou plutôt l'autorité palestinienne et Israël.
Oui, mais il faut se souvenir en effet que le quatuor a eu des positions qui ont évolué, ont changé dans ces termes selon les moments. Et le grand objectif était en fait d'interdire à Hamas d'exercer le pouvoir qui lui avait été confié par les urnes. Tout se réduisait à ce simple objectif.
On y reviendra, Jean-François Legrain, avec vous d'autres invités. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS Grémaud, Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon, et franceculture.com.